autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver entre science et science-fiction aujourd'hui, chers amis auditrices et auditeurs. Autour de notre table ronde mensuelle avec mes consoeurs et confrères de la presse scientifique, venus, vous le savez, avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner. Et comment dire, ce mois-ci, c'est du lourd, puisqu'il sera question des plus grandes énigmes spatio-temporelles, des plus grands mystères de l'univers. Avec Mathilde Fontès, d'abord dans Epsilon, nous découvrirons pourquoi les trous de ver ne sont plus seulement de la science-fiction, ces portes cosmiques, ces ponts spatio-temporels qui ont inspiré tant de scénarios de SF, sont déjà mais un objet d'étude et de recherche pour les scientifiques, peut-être même la clé de l'espace-temps, la sortie du tunnel ou plutôt des immenses trous noirs et autres étoiles à quarks. Thomas Delezier, dans Science et Vie, nous parlera lui aussi de ces monstres qui défient la physique et nous dira pourquoi les plus gros trous noirs pourraient devenir des trous blancs. Troublant, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas fini, car Fabrice Nicot, dans Science et Avenir, fait le pari de nous éclairer sur l'énergie noire grâce aux observations combinées des télescopes spatiaux mais aussi terrestres que nous révéleront tous ces nouveaux messagers du cosmos sur l'énergie noire. Mystère et bulle d'observation, nous reviendrons sur Terre pour mettre les intelligences artificielles au défi du réel avec François Lassagne de Pour la Science qui nous expliquera pourquoi ChatGPT répond parfois n'importe quoi et si c'était juste une question de bon sens, de lien au réel qui manquait cruellement ou heureusement à nos machines intelligentes. Faut-il avoir plus peur de la bêtise humaine que de l'intelligence des machines ? Nous nous interrogeons avec Philippe Hénarejos dans Ciel et Espace sur la méthode SpaceX, la méthode disruptive et détonnante d'Elon Musk, de son entreprise spatiale, véritable ovni dans le paysage, pour le meilleur ou pour le pire. Enquête sur la méthode SpaceX à suivre autour de la question « Comment la science infuse et se diffuse ?» Bienvenue. Bienvenue donc entre science et science-fiction pour traverser les trous de ver. Carrément, trous de ver, la nouvelle star de la physique. C'est la une d'Epsilon que nous allons découvrir avec Mathilde Fontès. Bonjour Mathilde.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Comment ce concept iconique de la SF, cette porte cosmique, ce pont spatio-temporel, est-il devenu un objet d'étude pour les physiciens ? Réponse de Mathilde, juste après un petit rappel cinématographique, extrait d'Interstellar, le film de Christopher Nolan, où des astronautes franchissent les trous de ver.
Nous avons commencé à détecter ces anomalies gravitationnelles il y a presque 50 ans. Principalement un léger décalage de nos instruments dans la haute atmosphère. Mais de toutes ces anomalies, la plus marquante est celle-ci, aux abords de Saturne. Une perturbation de l'espace-temps.
Est-ce que c'est un trou de ver ?
Apparu il y a 48 ans.
Et où est-ce qu'il mène ?
Dans une autre galaxie.
Un trou de ver, ça n'a rien de spontané.
Quelqu'un l'a placé là. Ce trou de ver nous permet de voguer vers d'autres étoiles. Il est arrivé pile quand on en avait besoin.
Les gars, on devrait atteindre les abords du trou de ver dans environ 3 heures.
Là, 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 le voilà. C'est le trou de ver, là.
Bien entendu, pas la peine de le postillonner. Tous prêts à dire au revoir à notre système solaire.
À notre galaxie.
C'est parti.
Et voilà, c'est parti Mathilde Fontès, sauf qu'on n'est pas dans un film de science-fiction, mais dans votre magazine, c'est la une et le dossier d'Epsilon de ce mois de mars 2024. Trou de ver, la nouvelle star de la physique. Pourquoi et comment les trous de ver sont ressortis de la science-fiction pour revenir dans la science ?
Ils sont ressortis de manière assez incroyable, puisqu'il faut rappeler que le trou de ver, c'est une invention théorique au départ, qui est issue de la relativité d'Einstein. Et d'ailleurs, c'est Einstein lui-même qui est là. Il travaille avec un autre chercheur qui s'appelle Paul Rosen. Et il se pose une question théorique qui est de savoir si je mets deux trous noirs, comment vont-ils réagir l'un avec l'autre. L'idée, c'est déjà de savoir si la relativité générale, cette théorie de l'univers, pouvait aider à comprendre la mécanique quantique, cette théorie de l'infiniment petit. Donc, cette idée est jetée à ce moment-là et on voit se former théoriquement un pont un pont qui peut traverser comme ça des grandes distances dans l'espace. Et après, il ne se passe rien. Il ne se passe rien jusqu'aux années 60. Et même ensuite, le trou noir, lui, prend corps, l'autre concept. Hein, donc, on a les astrophysiciens qui découvrent que les étoiles ont une durée de vie limitée, qu'elles peuvent s'effondrer et que ça peut donner des trous noirs. Le trou noir devient réel et il entre dans la vraie physique, on va dire, et plus seulement dans les mathématiques, plus seulement dans la théorie. Mais le trou de ver, lui, reste à part, complètement à part, comme un objet donc plutôt très théorique, plutôt très, très original, etc. Et puis il est happé par la SF, évidemment, tout de suite, puisque c'est ça. Très pratique dans un scénario de SF, ça permet aux héros de traverser l'univers en un instant. Et donc tout ça se passe, et puis il y a toujours ce problème, ce contexte quand même qui demeure, qui est celui de, on a une théorie de l'univers d'un côté, la relativité générale, et on a une théorie de l'infiniment petit de l'autre, et quels sont les lieux où on peut expérimenter une sorte de fusion des deux pour essayer de découvrir une théorie après qui expliquerait la gravité à l'échelle de l'infiniment petit, qui nous ferait comprendre plein de choses. Et c'est là qu'arrive tout un nouveau pan de physiciens, donc depuis une dizaine d'années, et ça s'intensifie ces dernières années, qui commencent à considérer le trou de vers, comme peut-être un objet quantique qui commence à essayer de voir si il pourrait pas être traversable d'un point de vue quantique, au moins sur le papier.
Au moins sur le papier, c'est ça, parce que dans la science-fiction, on traverse des trous de ver, c'est pas possible, mais c'est vraiment devenu un vrai sujet d'étude et il y aurait, du coup, c'est une des questions qui se posent dans ce dossier, il y en aurait beaucoup, il y en aurait partout des trous de ver.
Oui, alors c'est cette idée qu'en fait, alors c'est la première publie date de 2016, hein, et c'est une publie qui, un travail de recherche en fait qui montre pour la première fois, après qu'il y a eu des travaux, hein, sur les trous de ver dans les années 60, notamment un travail de Kip Thorne qui a eu le prix Nobel depuis, cet astrophysicien de Caltech, qui montre qu'il est impossible de traverser un trou de ver sans invoquer l'existence d'une énergie exotique qui n'est pas présente dans la physique aujourd'hui, qui serait une énergie négative et qui ferait barrière comme ça à la gravitation et qui empêcherait la porte de se fermer quelque part. Donc ça, c'était le point de départ. Et en 2016, tout à coup, des chercheurs montrent que dans un contexte particulier, dans un contexte théorique particulier, en fait, on peut rendre le trou de ver traversable. Et c'est en lien avec la mécanique quantique, donc dans ce sens que ce sont des trous de ver qui sont petits, microscopiques. Et on commence à s'apercevoir que là, tous ces chercheurs et toutes ces recherches qui sont menées ces derniers temps montrent que mathématiquement, ces trous de ver microscopiques sont, disons, décrits par exactement les mêmes équations que les équations quantiques, qu'il y a des ponts théoriques entre les deux, entre le trou de ver d'une part et entre d'autre part, par exemple, l'intrication quantique. Vous savez, cette propriété que deux particules peuvent avoir d'être liées aussi l'une à l'autre. Et une particularité quantique qui est, elle, bien prouvée depuis des années, qu'on utilise même pour faire de la cryptographie, etc. Et c'est comme ça que s'installe cette idée qu'il pourrait y avoir des trous de ver partout, non pas des trous de ver comme celui d'un cercellaire dans lesquels on pourrait voyager avec notre vaisseau.
Voilà, c'est ça.
Mais plutôt des trous de ver microscopiques qui du coup, comment dire, seraient à l'origine des phénomènes quantiques si étranges qu'on observe et qu'on mesure, nous, avec nos instruments sur Terre.
Donc, ce serait une sorte de clé, c'est ce que vous dites aussi, une sorte de clé de l'espace-temps, hein, ces trous de ver microscopiques.
Ce serait en quelque sorte le point de départ d'une théorie de la gravité quantique. Et c'est dans ce sens que travaillent les chercheurs qu'on a contactés à Epsilon pour réaliser cet article. Et il s'agit d'un bataillon de chercheurs, en particulier américains, toute une dynamique de recherche qui s'est mise en place depuis une dizaine d'années, sous l'égide d'un chercheur très reconnu qui s'appelle Juan Maldacena et qui est chercheur à l'université de Princeton, qui a mené des travaux qui ont été très reconnus, justement, dans les recherches sur la gravitation quantique pour essayer de trouver une théorie quantique de la gravitation et qui par là on est arrivé à cet objet qu'est le trou de ver et qui a même posé une égalité qui serait intrication quantique égale trou de ver, c'est-à-dire un endroit où on peut rapprocher enfin la relativité générale de la physique quantique. Et ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, on observe aussi du côté des astrophysiciens, donc là cette fois dans le vrai monde, un intérêt pour les trous de ver. Alors, est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils n'existent pas, est-ce qu'ils existent en dehors de cet aspect microscopique, ou est-ce qu'ils existent de manière, disons, macroscopique ou pas, personne ne sait, mais simplement, comme on peut observer aujourd'hui les trous noirs d'une manière, enfin on peut les observer pour la première fois depuis quelques années maintenant seulement.
Oui, on les a même pris en photo, enfin on peut les photographier, les trous noirs.
On peut les photographier, on peut mesurer la gravité à leur abord. Et en mesurant finement la gravité, ce que les chercheurs espèrent, c'est évidemment voir des déviations à la relativité générale, voir des déviations qui amèneraient vers cette théorie dont on sait qu'elle doit exister, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, et on en parlera plus tard dans l'émission, avec l'énergie noire notamment. Et en essayant de modéliser ces trous de ver à l'échelle astronomique, ils espèrent pouvoir, comme ça, voir des déviations de la relativité générale. Et donc, il y a aussi tout un tas de simulations de vrais trous de ver astrophysiques qui sont réalisés dans les laboratoires aujourd'hui pour préparer les futures observations de ces détecteurs d'ondes gravitationnelles que sont Virgo et Dirgo, qui vont monter en précision dans les années qui viennent.
Donc, pourquoi les trous de ver ne sont plus du tout de la science-fiction, mais sont arrivés dans la science, dans l'astrophysique, comme dans la physique quantique? Dossier à lire dans Epsilon de ce mois de mars. Merci Mathilde d'avoir été par téléphone avec nous. Vous avez eu un petit souci pour arriver jusqu'ici. Mais je rappelle que nous avons quelques exemplaires d'Epsilon à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs, si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook. Avis aux amateurs, d'autant que ce n'est pas fini, parce que au-delà des trous de ver, au-delà des trous noirs supermassifs, maintenant il va y avoir aussi des trous blancs. Troublants, n'est-ce pas? Dossier à suivre sur les nouveaux monstres cosmiques qui défient la physique, avec Thomas Delosier de Science et Vie, au rythme du super massive black hole, du tout aussi massive groupe Muse sur RFI. Massif Black Hole sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, bonjour Thomas Delosier.
Bonjour.
Vous consacrez la une et le dossier de Science et Vie aux nouveaux monstres cosmiques. Alors je vais les citer, on peut les aborder dans l'ordre. Il y a le trou noir extrémal, c'est ça,
c'est
hein
ça, oui.
Les étoiles à quarks, ouais. Et puis les trous blancs. Alors là, c'est complètement troublant. On commence par quoi? Par ce trou noir qui tourne à l'extrême?
Ouais, c'est le trou noir extrémal, donc on appelle aussi le trou noir de Kerr, qui est un trou noir en fait qui a une vitesse de rotation maximale. Et qui est très intéressant, puisque c'est un objet théorique encore aujourd'hui. Tous les objets dont on parle dans notre couverture, dans notre dossier, sont théoriques aujourd'hui.
Sont théoriques, ils n'ont pas été observés, ils ne sont
c'est
pas
ça.
Très observables d'ailleurs.
C'est un dossier qui ne va pas au fin fond de l'univers, mais au fin fond de l'esprit des chercheurs.
C'est ça, dans la théorie.
C'est ça, dans la théorie. Et vous savez qu'aux abords d'un trou noir, il y a un effet de spaghettisation, où l'espace-temps est courbé, qui fait que pour un même objet, l'espace-temps va être différent en deux points. Et sur ces trous noirs extrémales, en fait, cette courbure de l'espace-temps va être infinie. Ce qui fait qu'en fait, elle défie la théorie de la relativité générale. Et le seul moyen d'expliquer cette courbure infinie, ça serait des corrections quantiques de la relativité générale. Donc, une théorie en quelque sorte du tout qui réunirait la relativité générale et la mécanique quantique.
C'est vraiment le grand Graal des physiciens, des astrophysiciens aujourd'hui. Voilà pourquoi on s'intéresse à tous ces objets, que ce soit les trous de verre tout à l'heure ou tous ces monstres cosmiques. Il y a aussi du méga vide.
C'est ça, du méga vide. Ce serait des espaces dans l'univers où il y aurait beaucoup moins d'étoiles, beaucoup moins de nuages de gaz, une densité beaucoup plus faible. Et surprise, on serait dedans en fait. Il se trouverait qu'on serait dedans.
On serait dans le méga vide cosmique.
C'est ça,
en ce moment même.
En ce moment même, dans le méga vide cosmique, on dirait
c'est
pas.
C'est grave.
A priori, non. Et même, on irait au centre du méga vide cosmique, donc on n'en sortirait pas de sitôt.
C'est ça. Ça fait penser un peu aussi à des trous noirs qui absorbent et qui, de l'autre côté, se révèlent. Des trous blancs, voilà encore un autre objet cosmique insensé dont nous a parlé sur cette antenne le physicien et philosophe des sciences Carlo Rovelli. Ces trous blancs qui sont quoi? Les petits frères, les opposés des trous noirs?
Alors ça serait des miroirs des trous noirs en quelque sorte, au lieu d'absorber la matière, ils la recracheraient. Et ce qui est très intéressant, c'est que un trou blanc ne serait pas forcément la sortie d'un trou noir ailleurs, il pourrait être en fait la fin de vie de ce trou noir qui se transformerait en trou blanc et qui recracherait du coup toute la matière emmagasinée. Donc en fait, c'est assez intéressant puisqu'on se dirait, quand on rentre dans un trou noir, finalement, ce n'est pas où est-ce qu'on sort, mais quand est-ce qu'on sort.
Quand est-ce qu'on sort et pourquoi est-ce qu'on en sort en trou blanc? Je ne sais pas si j'arrive à vous suivre là. On va aller dans un autre monstre. Alors monstre, parce que c'est vraiment des monstres cosmiques. Cette fois-ci, c'est une étoile géante au cœur noir.
Ouais, c'est ça, c'est l'étoile trou noir.
Ils sont tous illustrés, enfin.
Ouais, on s'est amusé à les illustrer. Idée, voilà. En fait, on s'est amusé à aller explorer différents monstres cosmiques qui sont théoriques, donc pour l'instant qu'on n'a pas observé, puisqu'en fait, on sait qu'il y a une recherche... Il y a d'un côté la physique fondamentale et de l'autre la physique expérimentale qui se tire la bourre en quelque sorte. Si on arrive à trouver des nouvelles théories, c'est grâce à l'expérimentation et vice-versa. Et ces étoiles trous noirs sont fascinantes. Ce seraient des étoiles à hydrogène gigantesques qui, en fait, seraient tellement grosses qu'elles pourraient héberger un trou noir à l'intérieur sans que sa surface s'effondre. Et en fait, ça permettrait d'expliquer... Pourquoi on connaît les trous noirs supermassifs, mais on n'a pas trop de trous noirs médium, disons. Puisqu'en fait, ils seraient dans ces étoiles.
Ils seraient absorbés, en fait.
Et c'est qu'une fois que le trou noir deviendrait supermassif, que là, l'étoile s'effondrerait et on aurait ce magnifique...
C'est lequel, votre préféré dans tous ces monstres cosmiques, Thomas Delosier ?
Mon préféré, c'est peut-être l'étoile antimatière, j'aime bien.
C'est... L'étoile antimatière, on n'en a pas parlé.
Donc l'idée, c'est que au moment du Big Bang, on avait autant de matière que d'antimatière, a priori. Et où est cette antimatière? Elle serait peut-être nichée stockée dans des objets qui sont si petits qui n'interagissent pas avec leur environnement. Et donc des étoiles pourraient loger de l'antimatière. Et ce que j'aime bien, c'est que il n'y a pas d'antiphoton. Donc ces étoiles émettraient des photons, donc peut-être qu'on les voit, peut-être qu'on les observe, et on pense que ce sont des étoiles classiques, mais finalement...
Elles détiendraient de l'antimatière. Pour en savoir un peu plus sur tous ces monstres cosmiques qui défient la physique, et nous aussi d'ailleurs, dossier complet à lire dans Science et Vie de ce mois de mars, dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs à l'esprit libre et ouvert, on continue d'éclairer notre lanterne, et même la si mystérieuse énergie noire, avec Fabrice Nicot de Science et Avenir. Quelle est cette mystérieuse force qui provoque l'accélération de l'expansion de l'univers? Hypothèse sur l'énergie noire à découvrir juste après Dark Matters. Joli titre de circonstance du groupe Serratones et de sa fabuleuse voix, la guitariste et chanteuse A.G. Haynes, Louisiane. Dark Matters, à entendre dans tous les sens.
Nosebleed, woke up in a black dream, flying at warp speed. In my mind, oh my, who's she? Naked in the sweet grass, got the dust in my sheets.
Who am I? Who are we living for? Who are we living for? Calling me crazy, shake me to the core. Who are we living for? Who are we living for? Tell me who holds a key. Nobody seems to know why we're lost inside dark matter. Lost inside dark matter. No sleep. Oh, can you see me floating over my body, looking out? Hold me. I wish someone would hold me. Tell me that it's all right. Let it.
Bon ben c'est dit, on est tous tombés amoureux de la voix de Heidi Heyen dans ce studio Dark Matters sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse autour de l'énergie noire. Bonjour Fabrice Nicot.
Bonjour.
Vous avez mené l'enquête dans Science et Avenir sur cette mystérieuse force qui accélère l'expansion de l'univers. Alors où en est-on? Il y a des hypothèses autour de cette énergie noire, énergie sombre?
Oui, 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 peut-être revenir à l'origine de ce mystère qui a constitué une vraie révolution, hein, puisque à la fin des années 90, il y a eu deux projets qui voulaient mesurer l'expansion de l'univers en pensant que raisonnablement cette expansion devait probablement diminuer dans un univers qui serait constitué d'énergie, de matière, avec juste la gravitation à l'œuvre. Et ils ont découvert l'inverse, c'est-à-dire que loin de diminuer, elle augmente. Donc à ce moment-là, il a fallu revoir tous les modèles.
C'est ça.
Et essayer de trouver ce qui pouvait bien expliquer que l'univers était en expansion accélérée. Mmh. Et alors, dans ces cas-là, bah, ils ont fouillé un peu les fonds de tiroir.
ils ont dit, il doit y avoir.
Il y avait peut-être des indices. Alors, on a ressorti. Une théorie d'Albert Einstein, encore lui, décidément incontournable, quand il avait élaboré la relativité générale, avait déjà imaginé la possibilité de l'existence d'une constante cosmologique qui, en s'opposant à la gravitation, empêchait l'univers de s'effondrer. Parce que Einstein concevait plutôt un univers totalement immobile. Mm-hmm. Il avait donc, et ses équations indiquaient donc au contraire que ça risquait de s'effondrer. Donc ça le gênait beaucoup. Et il avait créé cette constante cosmologique. Jusqu'à y renoncer, puisque manifestement, on a découvert déjà l'expansion de l'univers avant l'accélération. Juste l'expansion, mm-hmm, s'affichait tout par là. Il l'avait abandonné. Donc là, on l'a ressorti. Mais ça, c'est un objet, on va dire, un peu purement théorique et qui imagine que finalement, c'est une propriété intrinsèque de l'espace à s'étendre. Comme ça, vous laissez un petit bout d'espace quelque part, il va s'étendre.
Il prend la place.
Pas,
voilà. Mm-hmm.
Mais sauf que quel est le mécanisme à l'œuvre? Mm-hmm. Eh ben, on ne sait pas. Hein. Donc ça, c'est une des premières hypothèses. Et puis, depuis 98, hein, on en a échafaudé d'autres qui sont listées là. On en a pris quatre, mais en réalité.
Oui, vous citez quatre hypothèses. Hein,
oui,
autour
oui,
de
oui
cette,
quatre grandes hypothèses.
Énergie sombre.
Sachant que certains des physiciens qui ont découvert l'accélération de l'expansion de l'univers disent aujourd'hui, dont Adam Riess, qu'il y a tellement de théories que finalement ils finissent par ne même plus trop y accorder d'importance, parce que c'est vraiment quelque chose qui est...
Voilà pourquoi vous vous intéressez aux observations actuelles et finalement aux grands télescopes, qu'ils soient spatiaux, enfin Euclide, oui, ou qu'ils soient terrestres à venir ou déjà là. Vous vous intéressez aux observations de tous ces télescopes et notamment vous êtes intéressé à un instrument particulier qui est en fonction en Arizona depuis 2021, c'est ça? et qui observe et qui va peut-être nous éclairer sur, sur cette énergie sombre, cette énergie noire.
Oui, oui. On a interviewé Nathalie Palanque de la Brouille, qui est une cosmologiste qui est actuellement donc, aux États-Unis, effectivement, qui est la porte-parole du projet DAISY. Et comme elle le dit en préambule un peu de l'interview, elle dit « on vit une époque formidable ».
Ça fait du bien d'entendre ça.
Ça fait du bien, oui. N'est-ce pas ? Parce qu'il y a un effort sans précédent en cosmologie pour essayer justement de faire le tri parmi les hypothèses sur l'énergie noire et essayer de comprendre ce que ça peut être. Et actuellement, il y a deux instruments en route. Il y a donc DAISY qui est un observatoire installé à Kitt Peak aux États-Unis qui lui a commencé ses mesures et commence à donner des résultats et d'ailleurs on donnera d'importants au mois d'avril. On a de l'autre côté Euclide qui lui est dans l'espace.
C'est ça qui a été lancé en 2023.
Oui, qui a été effectivement et qui a commencé là, qui commence à acquérir des données. Hein, et on attend enfin le Vera Rubin à nouveau au sol en 2025.
Grand et very large télescope au Chili à Atacama. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils vont mesurer ? Qu'est-ce qu'ils vont observer ? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir éclaircir un peu ce mystère de l'énergie noire ?
Eh bien oui, effectivement, alors même s'ils sont complémentaires, ils ont un peu le même objectif qui consiste à cartographier l'univers sur des distances considérables. Pourquoi ? Parce que donc, cette énergie noire, concrètement, elle accélère l'expansion de l'univers, donc elle lutte contre la gravitation, donc elle influence la façon dont la matière se répartit. Et si on observe la répartition de cette matière tout au long de l'histoire de l'univers, on va la voir petit à petit se manifester, parce qu'il y a 5 ou 6 milliards d'années, si on avait fait les mêmes mesures, on n'aurait pas trouvé d'énergie noire. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'en plus, elle semble se développer avec le temps.
Et avec l'expansion de l'univers,
voilà.
C'est ça aussi.
Plus il y a d'espace, plus elle prend de force, entre guillemets, et plus elle agit. Donc, l'objectif, ça va être un peu d'écrire son histoire en remontant le temps, en voyant comment elle a séparé les galaxies, comment elle a séparé les amas, etc., comment elle a agi, parce que les différentes hypothèses ne font pas les mêmes prédictions sur justement la façon dont elle s'est développée avec
le temps. C'est ça, il faut déjà comprendre ce que c'est, comment elle s'est développée et comment elle va continuer à se développer. Ça a quand même une petite importance, même si les échelles de temps sont énormes, mais comment l'univers va continuer de manière accélérée à s'expandre, à s'étendre.
C'est pour ça qu'on a choisi ce titre, un peu la force qui déchire l'univers. Mais effectivement, dans les hypothèses, ça peut aller jusqu'à le Big Rip, comme on dit.
Le Big Rip, la force qui déchire l'univers. Attention, mais non, ce n'est pas si catastrophique que ça, puisque de toute façon, ça ne nous concernera plus. Grand dossier, en tout cas, de Science et Avenir autour de cette énigme de l'énergie noire, l'énergie qui peut-être déchire l'univers. En tout cas, c'est peut-être pas à déchirer, mais c'est surtout à dévorer dans Science et Avenir de ce mois de mars, sous votre plume, Fabrice Nicot. Je rappelle que plusieurs exemplaires de Science et Avenir sont à gagner pour vous, chers amis auditrices et auditeurs. Il vous suffit de nous les demander par mail ou sur notre page Facebook, en nous précisant bien, pour vous les envoyer, votre adresse postale. Autour de la question « Comment la science infuse ?» et se diffuse sur RFI, nous allons maintenant mettre l'IA, l'intelligence artificielle, au défi de la réalité avec François Lassagne. Attention, dans Pour la science. Juste après, un peu de Cosmic Love. Allez, ça fait toujours du bien. Nouveau titre de Jane, extrait de la playlist du mois sur RFI. Cosmic Love, oui, oui.
Shining through, and you know that.
Pink Love à volonté avec Jane dans la playlist du mois sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, l'heure est venue de mettre l'IA, l'intelligence artificielle, face au réel, et c'est pas triste. Avec vous, François Lassagne, c'est le dossier de Pour la Science, où vous mettez en question, et en défaut, hein, on va le dire, ChatGPT. Alors juste histoire d'en sourire un peu, avant d'en pleurer peut-être, je ne sais pas, je propose d'écouter un petit extrait du 7h15 d'Arnaud Pontus, qui nous réveille tous les matins sur RFI. Arnaud qui avait lui aussi, l'an passé, mis au défi ChatGPT dans une chronique intitulée « Humeur artificielle ».
C'était la grève hier, donc je n'ai pas travaillé, je n'ai rien préparé pour aujourd'hui.
Vous êtes vraiment le partisan du moindre effort, hein ?
C'est vrai que t'es feignant.
Eh ben oui, j'ai exercé mon droit à la paresse. Et comme tout le monde, j'ai fait bosser ChatGPT.
ChatGPT, c'est un chatbot ou robot conversationnel. Il peut écrire des textes sur n'importe quel sujet.
Vous pouvez lui demander ce que vous voulez.
Le seul problème, c'est que ChatGPT n'a absolument pas le sens de l'humour et donc le pauvre Arnaud Pontus a dû l'écrire lui-même, sa petite chronique. François Lassagne, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous.
Alors, comment, dans ce dossier hein, que vous avez monté dans Pour la Science, comment avez-vous réussi à mettre l'IA face au réel ? Moi, j'ai un petit indice et une question, hein, évidemment. Vous avez posé à ChatGPT, cher François, une question. Pourquoi un anaconda ne peut pas rentrer dans un supermarché ? Et c'est quoi la réponse de ChatGPT ?
Alors, je vais la faire en deux temps. On a effectivement posé cette question, qui a l'air un peu bizarre, un peu idiote, mais que tout le monde comprend, je pense. On l'a posée à ChatGPT 3, donc une version qui n'est plus en ligne actuellement, parce qu'on en est à ChatGPT 4.
D'accord.
Et ChatGPT 3 s'est vraiment bien trompé, puisqu'il a répondu que, on ne peut pas faire rentrer un anaconda dans un supermarché, parce qu'un anaconda fait à peu près 10 mètres de long, et que la hauteur sous plafond d'un supermarché, c'est à peu près 2 ou 3 mètres, et que par conséquent, ce n'est pas possible.
Il est logique, ChatGPT,
il n'est pas tellement logique. Alors, il fait mieux aujourd'hui, j'ai reposé la question à ChatGPT 4, il fait une réponse très circonstanciée, en disant que c'est possible, mais que ce n'est pas conseillé, en gros. Hein. Je résume, il fait ça de manière plus longue, mais c'est à peu près le message, c'est
d'accord.
Que c'est techniquement possible, mais ce n'est pas conseillé. J'ai fait un autre jeu ce matin avec ChatGPT 4. Je lui ai demandé de me dessiner parce que désormais, ces robots conversationnels savent aussi traiter de l'image, même de la vidéo désormais. Et je lui ai dit, dessine-moi une pièce absolument sans éléphant. Je ne veux pas d'éléphant dans cette pièce. Et donc, il m'a dessiné un joli petit salon assez confortable avec même une cheminée. Non, il n'y a pas d'éléphant, sauf sur le tableau qui est au-dessus de la cheminée. Il y a un tableau avec un éléphant dessus. Alors, ce sont des exemples un peu particuliers qu'on pourrait qualifier d'un peu spécieux. Vous faites l'essai avec une girafe, une pièce sans aucune girafe. Vous aurez une merveilleuse cuisine avec des tableaux contenant des girafes.
C'est ça, exactement. C'est quand même extraordinaire. Là, on se dit, effectivement, là, on... enfin voilà, c'est ChatGPT. Qu'est-ce qui lui manque à ChatGPT ?
Ah, Oui, il lui manque... On dit rapidement, il lui manque le bon sens.
Ah, c'est ça.
En fait, on va voir qu'il lui manque exactement quelque chose de précis qui est l'interaction avec le monde réel. Ces défauts-là de ChatGPT et de tous les autres modèles de langage, donc ces modèles qui ont des millions, des centaines de millions de paramètres et qui utilisent du texte ou de l'image, les manipulent et puis répondent aux questions ou aux demandes en recrachant du texte ou de l'image. En général, de manière assez bien faite, assez pertinente, mais parfois se trompant complètement. Bon, ces machines, elles ont un petit problème, c'est qu'elles ont une connaissance parfaitement livresque. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait lu tout Wikipédia, et puis à qui on poserait des questions et qui répondrait à partir de ce qu'il a lu dans Wikipédia, mais en fait, cette personne ne serait jamais sortie de sa chambre. Et bien, c'est à peu près ça aujourd'hui, une intelligence artificielle. Et donc, il lui manque l'expérience que nous, les humains, faisons quotidiennement, c'est-à-dire vivre, marcher, interagir, c'est-à-dire manipuler des choses, voir des objets de près, de loin, avoir un corps. Et donc, ce qui serait bien, c'est de réussir à faire l'expérience du monde au modèle de langage. Et ce qui est chouette, c'est que c'est possible. On a demandé à une équipe de l'INRIA qui fait précisément ça de nous raconter comment ils s'y prenaient et si ça marchait. La réponse est on peut le faire et ça marche. Très simplement, ils ont pris un modèle de langage qui n'est pas ChatGPT mais qui en est à peu près l'équivalent et l'ont branché à ce qui ressemble à un jeu vidéo des années 90. Un jeu très très simple où on ne peut pas faire grand-chose d'autre que se promener dans un univers virtuel et faire quelques actions comme avancer d'un pas, reculer d'un pas, se tourner à gauche, se tourner à droite. Ça ressemble de manière très concrète, un damier avec des objets posés dans des cases du damier. Et puis, on a un petit agent qui se déplace dans ce damier. On lui dit, va chercher la boîte verte, déplace-toi pour aller prendre la boîte bleue. Et le modèle dans le langage est le cerveau de cet agent qui se balade dans le jeu, et c'est aussi son corps, parce que en fait il va recevoir des informations de cet environnement virtuel qui va lui dire tu as réussi ou tu as raté. Tu es à tourner à droite, tu vois un objet bleu. Tu as tourné à gauche, il y a le mur. Et en répétant des milliers de fois ces petites promenades dans ce damier par cet agent, eh bien le modèle de langage qui est le cerveau de l'agent, petit à petit, finit par comprendre, entre guillemets, de quoi est fait cet univers et ce qu'il peut y faire ou ne pas y faire.
C'est ça, c'est pas comprendre, mais confronter à la réalité, à notre réalité, à des choses qui nous semblent totalement évidentes. Là, enfin...
Exactement, il apprend très simplement, il apprend de ses erreurs, mais en manipulant le réel. Alors le réel, ça reste en
encore... Oui, ça reste quand même de la fabrication, enfin,
c'est de la fabrication, c'est du virtuel, mais on pourrait très bien transposer ça avec un robot qui aurait des capteurs et qui évoluerait dans le monde réel et qui, du coup, petit à petit, modifierait son système de représentation interne, donc ses statistiques du modèle de langage, pour les faire coller de plus en plus à son expérience authentique du réel. Donc ça ressemblera peut-être, si tout va bien, à du bon sens. Alors on s'est amusé aussi à... On n'a pas pu résister, en fait, à aller relayer les travaux de deux Américains à l'Université de Pennsylvanie ont, pour la première fois, cherché à quantifier ce qu'est le bon sens. Parce qu'entre nous, on est à peu près tous d'accord sur ce que c'est. Bah, quelqu'un fait preuve de bon sens ou n'en fait pas preuve. Mais finalement, en fait, on parle de quoi ? Donc c'est
bien pour ça aussi qu'on ne peut pas l'insuffler dans une machine si on ne sait même pas de quoi on parle.
On n'a pas exactement la recette, on n'arrive pas bien à le définir. Alors justement, ce qu'ils ont fait ces Américains, ils ont interrogé un peu plus de 2000 personnes, ils leur ont soumis 4000 énoncés, plus ou moins simples. Ceci est une table ou bien un énoncé théorique un peu compliqué en philosophie. Et puis ils ont demandé à tous les gens, est-ce que vous pensez que c'est du bon sens ? Est-ce que vous pensez que les autres pensent que c'est du bon sens ? Et en faisant ce genre de mesures, ils se sont rendus compte. Alors, il y a trois enseignements intéressants. Premier enseignement, c'est que ce qui est compris comme d'emblée du bon sens pour la plupart des gens, souvent, ce sont des réalités physiques, qu'un objet tombe quand on le lâche, ou des notions de science appliquée ou de technologie. Donc des choses assez concrètes. Le deuxième enseignement, c'est que si maintenant on s'intéresse à ce qu'est un individu doué de bon sens. Un individu doué de bon sens, c'est celui qui va penser à peu près comme les autres, en parlant de beaucoup de choses communes. Mmh. On partage ensemble plein d'énoncés et on pense qu'ils sont du bon sens et on est tous d'accord que les autres pensent aussi que c'est du bon sens. Si je suis comme ça, je suis un individu doué de bon sens. Donc ils ont mesuré ça, c'est plein de gens, et ils se sont rendus compte que ça ne dépend, si en être plus ou moins doué, ça ne dépend pas du tout ni du sexe, ni de la catégorie socio-professionnelle, ni de l'âge. C'est très, très universel. Donc ça, c'est plutôt rassurant.
On partagerait
globalement le bon sens sans différence particulière sociale ou économique. Le dernier enseignement, c'est assez embêtant pour le coup, c'est que si on cherche à comprendre est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui partagent le même bon sens, la réponse, statistiquement, est très peu. En fait, on est d'accord sur très peu de choses.
Donc, on a chacun notre bon sens.
Alors, c'est pas, heureusement, ce n'est pas aussi tendu que ça. Mais oui, on a chacun un peu de bon sens partagé et beaucoup de bon sens à soi. Alors, le bon sens devient du quant à soi, peut-être. Bon, tout ça est très humain. Ça va peut-être être difficile de l'inculquer aux machines.
De l'inculquer dans une machine, d'autant que les machines, on le rappelle, n'ont quand même aucun humour. Parce que moi, je suis en arrêt devant c'est ce graphiste qui doit dessiner une pièce dans laquelle il n'y a aucune girafe ou aucun éléphant et qui fait des tableaux d'éléphants et de girafes sur les murs. Franchement, le gag valait le coup. Jusqu'où ira notre sens de l'humour et surtout le bon sens des machines ? Comment mettre l'IA en face et en phase avec le réel ? Dossier complet, passionnant à lire dans Pour la science de ce mois de mars, dont vous nous avez, François, aussi apporté quelques exemplaires. Ils sont pour vous, chers amis, auditrices et auditeurs qui n'êtes pas des machines, mais êtes passionnés par toutes les questions de science astronomique, à suivre l'enquête de Ciel et Espace avec Philippe Hénarejo sur la méthode SpaceX, ça promet. À l'écoute de M sur RFI Machine.
Je murmure dans tes entrailles, je n'entends plus le gong. Plus je chine, moins je te trouve, tu te déracines. J'ai oublié ton nom, plus d'identité, mais où sont tes racines ? Plus aucun papier, machine est cassée, de l'encre a coulé. Joueur conditionné, débridé, machine à fumer. Sais plus qui elle est, comment elle s'appelle, est-ce que tu imagines?
Alors, je murmure dans tes entrailles, je n'entends plus le gong. Qu'est-ce que tu mâches, qu'est-ce que tu machines derrière les buildings? Si ta prose me détruit, j'ai ta poésie dans ma peau.
Machine, signé M sur RFI, autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Vous avez mené l'enquête, Philippe Hénarejos, dans Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Sur la méthode SpaceX, la méthode Elon Musk, pourquoi et comment cet ovni, hein, c'est un ovni dans le paysage aérospatial, s'affranchit de tous les usages habituels pour lancer par exemple sa fusée Falcon 9, Falcon 9, c'était le 14 février dernier. Commentez sur la chaîne YouTube Ufotonique, très tonique. Hein.
Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Ufotinique, la chaîne où vous pouvez suivre en direct et en français les événements spatiaux. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve ce soir pour un lancement d'une fusée SpaceX, une Falcon 9 de SpaceX, qui lancera 6 satellites de défense antimissile pour la United States Space Force. Destination, on ne sait pas trop, les amis, puisqu'il s'agit d'une mission classifiée. Donc on n'a pas trop d'informations sur l'orbite, mais on va pouvoir détecter quelque chose sur cette petite fusée. Les plus attentifs d'entre vous devraient voir une petite anomalie sur cette Falcon 9. On en reparlera quand SpaceX nous montrera les images d'ici une petite quinzaine de minutes.
5, 4, 3, 2, 1, ignition and lift off.
C'est parti!
Ben voilà, c'est parti, cher Philippe Hénarejos. Vous avez mené. Oh, ça vous a... Effectivement, ah oui. C'était très tonique, hein, son lancement de Falcon 9. Mais vous avez mené l'enquête, hein, dans Ciel et Espace sur justement cette méthode SpaceX, cette méthode Elon Musk qui fonctionne mais qui s'affranchit de tous les usages.
Eh oui, parce que ça fait maintenant à peu près presque 20 ans que cette société SpaceX est arrivée dans le milieu du spatial, qui était un milieu très codifié. Il y avait des grandes agences nationales, la NASA, l'ESA, multinationales, et puis des industriels qui travaillaient comme sous-traitants pour ces agences-là et qui faisaient ce qu'on leur demandait, en gros. Et puis SpaceX arrive avec son bouillant patron Elon Musk et avec une philosophie bien à lui, bien à elle, pour la société, mais c'est celle d'Elon Musk.
La philosophie d'Elon Musk.
Il n'y a pas de SpaceX sans Elon Musk. Elon Musk a un rêve, c'est de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Donc une espèce qui ne va pas vivre que sur Terre, mais qui va essaimer vers d'autres planètes. Et ben, la première planète, c'est Mars, celle qui est à côté. Et pour ça, ben, il faut faire en sorte que l'accès à l'espace soit aussi simple que l'aspect à l'aérien aujourd'hui, c'est-à-dire que vous prenez des avions de ligne, il y a des milliers d'avions qui volent en permanence autour de notre planète, qui sont réutilisés, sitôt qu'ils se reposent, ils repartent. Donc, c'est son moteur. Pour ça, évidemment, il faut alimenter la machine, il faut des sous, parce que le spatial, c'est coûteux, il faut développer tout ça, et quoi de mieux que de créer son propre marché. Donc on fait des fusées réutilisables. La première du genre, c'est Falcon 9.
C'est ça, elle est réutilisable, elle est recyclable.
Elle est réutilisable en partie. Le premier étage dans une fusée, c'est quand même 80% de la masse. Hein. C'est ce qui permet de faire les premiers kilomètres, de donner l'impulsion la plus forte. Mais c'est un premier pas. Donc Falcon 9 n'est pas entièrement réutilisable. Son deuxième étage est perdu. Sa charge utile, ça dépend si elle revient ou pas. Mais donc il y a même des évolutions pour la faire entièrement réutilisable, mais pour ça, il faut doter le deuxième étage d'un bouclier thermique, c'est plus lourd, donc c'est moins efficace, etc. Donc ça, voilà. Mais en tout cas, Falcon 9, c'est la première fusée réutilisable. Tout le monde se demandait, mais est-ce que c'est rentable ? Est-ce que le travail de remise en état de l'étage ne va pas plomber financièrement sa réutilisation. On commence à avoir des données, donc on en parle dans le dossier. Ça dépend surtout de la fréquence des lancements. C'est-à-dire que si vous faites ça avec une petite fréquence, comme c'était le cas à l'époque, c'est-à-dire à l'époque où, vous savez, il y avait une société qui marchait très bien, c'était Ariane Espace, Ariane, dans les années 80, mais la fréquence des lancements, c'était quelques lancements par an. Là, SpaceX, c'est plus de 100 lancements par an.
Ah ouais, on passe à une toute autre échelle,
voilà.
En fait.
Ça n'a plus rien à voir. Et pour l'instant, et a priori, d'après les projets fous d'Elon Musk, c'est que le début.
Projet fou, on est d'accord. Hein, parce qu'il est à la fois visionnaire et illusionniste complètement.
On a essayé d'être objectif,
mais
c'est difficile
avec Elon Musk.
Mais, parce que c'est quelqu'un de clivant. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont voir notre couverture et qui vont se dire... est-ce qu'ils sont pro ou anti Musk? On n'est ni l'un ni l'autre. On a essayé de faire notre travail correctement. Bien sûr, on a notre avis, mais en fait, on essaie de se baser sur des faits objectifs. Et donc, il faut reconnaître que Musk réussit des choses. Quand je dis des projets fous, c'est pas simplement un jugement de valeur. C'est que quand vous imaginez la Super Heavy, qui est la nouvelle fusée, elle fait, avec son Starship au-dessus, qui est le vaisseau. Tout ça, c'est un ensemble qui fait, dans sa première version, 120 mètres de haut, 9 mètres de diamètre, 5000 tonnes au décollage. Il n'y a jamais une fusée aussi grosse qui a été créée. L'idée, ce n'est pas que ça soit l'équivalent de la Saturne V, à l'époque, qui envoyait les hommes sur la Lune, où il y a eu 13 tirs en tout. L'idée, c'est d'en faire un avion de ligne. Quand je dis que c'est un projet fou, il y a quand même un problème environnemental qui va se poser. Parce qu'une fusée comme ça, le bilan carbone n'est pas celui d'un avion. C'est autre chose. Je ne sais pas combien il y a de Boeing 747 qui vont dans un Starship. Vous voyez, ça commence à peser lourd. Donc, Musk avance. Donc, on a enquêté sur tout ça. Sur
la constellation Starlink.
Voilà, sur
aussi.
sa méthode de production.
Il y a même un reportage sur place très documenté sur la base de l'économie
de Boca Chica au Texas. Où, en fait, c'est étonnant, notre reporter qui est allé là-bas. Vous pouvez vous balader, vous entrez, il n'y a pas de barrière. Vous arrivez à même pas 100 mètres des fusées qui sont là avec des ingénieurs qui passent, vous leur parlez. Les gars regardent la fusée. Il y a des propriétés privées juste à 20 mètres de là. Tout ça, alors que si vous allez au Kennedy Space Center, il vous faut une accréditation à des kilomètres à la ronde, vous ne vous approchez pas. Quoi.
Changement d'échelle. Alors pour découvrir, donc on a compris, ni pour ni contre, cet ovni dans l'industrie spatiale, que chacun se fasse son idée. C'est donc à lire formidable enquête sur la méthode SpaceX dans Ciel et Espace, dont nous avons aussi, vous nous avez amené, merci Philippe, quelques exemplaires à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs qui vivent loin, et puis tous les autres, ils vont aller en kiosque pour acheter ce magazine et tout ce dont nous avons parlé. Donc Ciel et Espace, Science et Vie, Science et Avenir, Epsilon et pour la science. Merci à vous tous et toutes camarades. Et puis rendez-vous dans un mois, le mardi 2 avril prochain, pour une nouvelle infusion et diffusion de science avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Merci pour votre curiosité, chers amis auditrices et auditeurs. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. On vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle série de questions. Et dans quelques instants, ce sera l'heure des infos sur RFI.